Ce mémoire est une mise en forme de mes carnets de route destinés, sur la suggestion du professeur Binswanger, à mettre un peu d'ordre dans le chaos de mes souvenirs. J'écris sur les bords du lac Calafquén, au Chili, dans la villa où il a plu à cet éminent chercheur de nous inviter, mes compagnons et moi, pour quelques semaines de villégiature. Au début de son « histoire véritable », Lucien de Samosate prend soin d'avertir ses lecteurs qu'il va leur apporter des faits qu'il n'a pas vus, des aventures qui ne lui sont pas arrivées et qu'il ne tient de personne. « J'y ajoute, dit-il, des choses qui n'existent nullement et qui ne peuvent pas être. Il faut donc que les lecteurs n'en croient absolument rien. » À prendre au sérieux cette antinomie entre un titre et l'annonce de son contenu, je devrais intituler mon récit « Histoire mensongère ». Car tout ce que je m'apprête à raconter, je l'ai vu de mes propres yeux, entendu de mes propres oreilles, et donnerai cher pour me persuader que j'ai seulement rêvé. Parti de Tripoli un 15 août, il y a bientôt 40 ans, je parvins à Ghat, dans le sud libyen, vers le début du mois suivant. J'y dénichais, non sans difficultés extrêmes, la personne dont l'archéologue Carlo Masocchi m'avait glissé le nom lors d'une brève rencontre à l'université de Bologne. Hamza Nejma, un Amazigh qui prétendait connaître l'emplacement de Garama, capitale disparue du royaume des Garamantes. Cette simple allégation n'aurait pas suffi à convaincre mon ami Carlo si l'homme ne lui avait montré plusieurs objets, parmi lesquels une table d'offrande et une stèle funéraire où figurait un char, dataient à l'évidence de la période garamantique. On ne pouvait tirer l'assurance que ce matériel provenait de Garama. Mais il existait à coup sûr un site de même époque qui justifiait l'effort et la dépense d'une vérification. Ma part d'héritage du négoce familial autorisait cette passion dispendieuse pour l'ethnographie. Poussée par la curiosité et le désir légitime de rapporter les premières images d'une cité perdue, j'avais entrepris ce voyage avec l'aval de Carlo que ses obligations universitaires retenaient en Italie. J'étais en quelque sorte son éclaireur. L'attentat de la rue des Rosiers qui venait d'ensanglanter Paris à cette date ne fut pas, je l'avoue sans honte, le moindre motif de mon empressement à quitter la France. Les vestiges de Garama, m'assurait Hamza, se trouvaient tout au plus à 4 jours de marche. Je le chargeais de mettre sur pied la petite caravane dont nous aurions besoin pour une rapide reconnaissance des lieux. Il s'en acquitta en peu de temps, épaulé dans ses tractations par la facilité avec laquelle je déliais ma bourse. 5 méharis, 2 montures, 3 pour le transport des outres d'eau, des provisions, de la toile et des piquets d'une tente bédouine, c'est l'équipage qui m'attendait à l'aube de ce 8 septembre, tandis que mon guide finissait d'ajuster selle et sacoche sur les bêtes. Nous quittâmes Ghat en direction du nord-est. Derrière nos pas, la médina et la forteresse qui la surplombe faisaient une masse sombre. Plus loin, émergeant à peine dans la première lueur du jour, les contreforts du mont Koukoumen rougeoyaient. Ce n'était pas mon baptême du sable. Pour avoir rallié l'oasis de Farafra à celle de Bahariya, quelques années plus tôt, j'avais déjà goûté au supplice d'une longue méharée, aux incessantes traversées de dunes sous un soleil de plomb. Rien de plus hostile que le désert, rien de plus monotone dans la succession des jours brûlants et des nuits de gel. Le paysage qui s'étendait devant nous promettait le même genre d'épreuve, mais j'étais sans appréhension. 3 ou 4 jours, avait promis Hamza. Son beau visage noir et quelque chose de très doux dans son regard donnaient foi d'emblée en sa parole. L'après-midi du deuxième jour, nous pénétrâmes lentement dans le labyrinthe de l'Acacus. Il y a des mots que nous savons lire, mais dont la charge est telle que nous ne les employons pas. Des mots qui semblent exagérés, affectés, presque abusifs, tant que leur sens ne nous a pas serré la gorge. Dantesque est de cela, mais c'est le seul qui me vint pour qualifier l'enfer qui nous aspira, sa beauté cruelle, sa monstrueuse outrance. Creusée jadis par des cours d'eau tumultueux, une dalle de grès dressait devant nous d'innombrables canyons. Des fleuves de sable y coulaient, se divisant à l'infini. Plus question de marcher en droite ligne. Il fallait contourner sans cesse des falaises abruptes, de brins amoncellements de roches, des concrétions déchiquetées, toute une denture de stalagmites, de menhirs colossaux affectant des formes grotesques et qui semblaient en équilibre sur leur base ridiculement étroite. Même chaleur insupportable, même absence d'eau, de végétation, même terre désolée où on n'apercevait que des lézards à gueule bleue, des traces de crotales et, parfois, réunis en grappes, de petites coloquintes couleur paille dont on se demande à quoi peut bien servir leurs fruits amers et venimeux. Le troisième jour, alors que nous traversions un large cordon dunaire entre deux massifs, une violente tempête de sable fondit sur nous. L'atmosphère prit une teinte jaunâtre. De minces tourbillons apparurent qui se mouvaient en ondulant sur la surface du sol. Balayées par le vent, les dunes fumaient telles des vagues prêtes à déferler. Dans le brouillard de poussière qui grandissait, je vis Hamza tendre le bras vers l'est, indiquant la muraille lointaine que nous devions atteindre. Le temps de prendre un cap avec ma boussole et de me placer en tête de caravane, l'horizon disparut. Nous marchâmes 6 heures à l'aveuglette, respirant plus de sable que d'air, avant de pouvoir nous abriter dans une sorte de grotte qui s'ouvrait à flanc de rocher. La tempête dura un jour et une nuit. Quand elle s'apaisa, deux de nos dromadaires de bât étaient morts. Hamza fit mine de reconnaître l'endroit où nous nous trouvions, mais avec sagesse, il conseilla de retourner sur nos pas et de rentrer à Gath. Nous n'avions plus assez de marge pour rejoindre l'hypothétique Garama et en revenir. J'acquiesçais, bien sûr. Nous répartîmes les charges sur les bêtes valides et tournâmes bride vers le sud-ouest. La boussole était censée garantir notre direction. Mais je ne fus pas longtemps sans m'apercevoir qu'elle contredisait la position du soleil. La tempête avait modifié le comportement de son aiguille. Celle-ci persistait à indiquer un cap. Mais ce n'était plus celui du magnétisme terrestre. Au fil des jours qui s'écoulèrent, Hamza se montra de plus en plus anxieux. Nous ne sortions d'une vallée que pour entrer dans une autre tout à fait semblable. Et il devint évident que mon guide ne savait plus où il allait, qu'il nous avait bel et bien perdus dans ce désert impitoyable. Prisonniers d'un dédale de pierre, nous errâmes durant 6 jours sans réussir à retrouver notre chemin. Dattes et farine d'orge avaient fini par s'épuiser. Nos outres sèches pendaient au flanc des dromadaires. Nous en vîmes à lécher au creux des roches le peu d'humidité qui déposait la rosée du matin. baigné de sueur, tremblant de fièvre, lèvres collées mais bredouillant sans cesse d'un sénile délire de grabataire, je n'avançais qu'avec la plus grande peine. Plus aguerri que je ne l'étais, soutenu moralement par ses prières au Dieu des Mahométans, Hamza prit soin de moi autant qu'il fut possible. À l'issue d'un défilé, et alors même que nous avions perdu espoir l'un et l'autre de conserver nos vies, nous aperçûmes, au centre d'une dépression inattendue, le ruban de verdure d'une palmeraie, puis les murailles et les terrasses blanches de la ville qu'elle entourait. Au regard incrédule et un peu effrayé de Hamza, je sus qu'il découvrait cette oasis pour la première fois. C'était du moins un lieu habité où se trouvait à coup sûr notre salut.